Radio Okapi.
Présenté par Belida Boussouma, voici le sommaire. Sept creuseurs artisanaux morts asphyxiés hier dans une mine d'or à Mungwalu dans l'Ituri. C'est à la suite d'une forte pluie qui s'est abattue sur la région. Ceci ramène à au moins 15 le nombre des morts enregistrés dans des mines d'or dans la région depuis le début de cette année. Sept Kikuni devant le parquet près la cour d'appel de Kinshasa. L'ex-candidat à la présidentielle de 2018 est détenu à l'ANR depuis environ 2 semaines. Il lui est reproché plusieurs actes contre l'autorité de l'État congolais. Son chargé de communication parle d'un acharnement contre leur président. Et puis, l'Association des professeurs de l'Université des sciences de l'information et de la communication, APUSIC, exprime son indignation face au revirement du comité de gestion de l'UNISIC. L'APUSIC sollicite ainsi l'intervention de la ministre des tutelles. Pour en parler, nous recevons Adélar Obulokwes, secrétaire de la délégation syndicale de l'UNISIC. Sachez tout d'abord que ce samedi 14 septembre, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie, Thérèse Kayikwamba, conduit la délégation congolaise à Luanda en Angola, où s'ouvre plutôt la réunion ministérielle dans le cadre du processus de Luanda. Cette réunion vise notamment à poursuivre les discussions sur les points restés en suspens les 20 et 21 août derniers, dont l'harmonisation a été effectuée par les experts lors de la réunion tenue à Rubavu, au Rwanda, les 29 et 30 août 2024. Madame, messieurs, bonjour. En Ituri, 7 creuseurs d'or artisanaux sont morts dans une mine d'or appelée Makala à Mungwalu, commune rurale située à 85 km au nord de Bunia, dans le territoire de Djougou. Selon des sources sur place, les victimes sont mortes asphyxiées par les eaux des pluies qui ont bloqué l'entrée de la mine. La société civile de Mungwalu indique que les 7 corps sont remontés hier à la surface des eaux. Le récit de Martial Kizabia Mungu.
Les drames sont survenus jeudi au cours d'une forte pluie qui s'est abattue sur cette région minière pendant plusieurs heures. La société civile de Mungwalu indique que les 7 orpailleurs ont été surpris à plein travail par la montée soudaine des eaux qui s'est ruchée des collines avoisinantes, bloquant ainsi la porte des sorties de la mine appelée Makala. Privés d'oxygène, ils sont morts sur place. Cheribé Kokodilaou, le président de la société civile de Mungwalu, explique.
Cela étant à l'intérieur, ils ne savaient pas ce qui se passait à l'extérieur. Étant sur le chemin de sortie, ils ont trouvé que le niveau d'eau avait augmenté. Et à l'intérieur, là-bas, il n'y a pas assez trop d'espace. Ils se sont retrouvés 7 personnes coincées à un même endroit avec l'eau qui a bouché la sortie. Ils ont souffert des manques d'oxygène et c'est comme ça qu'ils sont morts par asphyxie.
Depuis le début de cette année, 7 accidents mortels sont déjà enregistrés dans des mines d'or dans la région, provoquant la mort d'au moins 15 orpailleurs. Bunia, Martial Kizabia Mungu, Radio Okapi.
Entre-temps, dans la province du Tanganyika, nous apprenons le naufrage d'une embarcation qui a causé 3 morts, tous des enfants, 2 disparus dont un enfant et 16 rescapés. L'accident est survenu dans la soirée de jeudi sur la rivière Lukuga dans la ville de Kalemie. Dans un communiqué de presse publié vendredi, le gouvernement provincial du Tanganyika annonce que les recherches se poursuivent pour retrouver les disparus. Paul Mounanga nous raconte.
Le naufrage s'est produit vers 19h ce jeudi. La pirogue motorisée transportait 21 personnes plus les membres de l'équipage et la marchandise, indique le commissaire lacustre de la ville de Kalemie. Ces bottes provenaient du village Kinzonvi à 35 km de Moba vers la localité de Moliro. Arrivé à Kalemie, il percute un pilier en béton du pont Lukuga. La pirogue s'apprêtait à accoster lorsque le moteur est tombé en panne. Les communiqués de presse précisent que les causes du naufrage sont la panne du moteur et la surcharge. Notons parmi les rescapés, 9 hommes et 6 femmes, indiquent les communiqués. Le gouvernement provincial du Tanganyika rappelle l'importance de respecter les règles de la navigation. Il s'engage à prendre des mesures nécessaires pour éviter que pareils incidents ne se reproduisent à l'avenir. Rappelons qu'au mois d'avril dernier, le MV Benita avait fait naufrage sur le lac Tanganyika, tuant plusieurs personnes. À cette période, le gouvernement provincial avait pris des mesures pour sécuriser la navigation sur le lac Tanganyika. Kalemie, Paul Mounanga, Radio Okapi.
Dans la province du Kwilu, des cas de vindicte populaire sont devenus récurrents au village Idiofa Balabala. Dans le territoire d'Idiofa, alerte la société civile locale. Au moins 4 cas de meurtre sont enregistrés en l'espace de 3 mois dans ce coin. La même source indique que le dernier cas remonte à mercredi 11 septembre où un homme a été tué par ses propres neveux après la mort de sa nièce qui était malade. Irène Mboma nous relate les faits.
Selon les sources de la nouvelle société civile du territoire du Diofa, les victimes de ces cas de vindicte populaire sont souvent les personnes de troisième âge qui sont accusées de sorcellerie. Ces dernières sont tuées soit par la population, soit encore par les membres de leur propre famille. Les derniers cas de lynchage est survenu mercredi dernier au village Idiofa Balabala, dans le secteur de Mosanga Idiofa, situé à quelques kilomètres de la cité du Diofa, chef-lieu du territoire. Il s'agit d'un homme qui a été lâchement abattu en forêt par ses neveux à la suite du décès de l'une de ses nièces. Arsène Kassiama, coordonnateur de cette structure citoyenne qui condamne cette pratique, explique les faits.
Un papa qui a été lapidé en forêt suite au décès d'une de ses nièces était malade dans l'église et le pasteur aurait même dit que cette maladie est due à son oncle. Quand la fille est décédée, le frère de cette jeune fille sont allés suivre leur oncle en forêt et on l'a vraiment tué à bout portant avec des coups de machette. Nous devons éviter la justice populaire parce que personne n'a prouvé que cela a été dû à ceci, à cela.
Pour l'instant, les présumés auteurs de ces meurtres sont en fuite et les pasteurs aux arrêts ajoutent Arsène Kassiama. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Rendons-nous au Nord Kivu. Un calme relatif s'observe encore ce samedi sur la ligne de front dans la zone de Bweremana, chefferie des Baoundé, territoire de Masisi. C'est après des violents combats jeudi dernier, des combats qui ont opposé les rebelles du M23 à l'armée congolaise et ses alliés, les volontaires pour la défense de la patrie, VDP Wazalendo. C'était autour des positions surplombant le village Bweremana. Les rebelles du M23 cherchant à reprendre le contrôle des positions phares d'essai sur ces hauteurs stratégiques sans pourtant les reconquérir. Des sources concordantes dans la zone affirment qu'aucun tir n'a été entendu ces 2 derniers jours. Cependant, la tension reste palpable parmi les populations de Bweremana et ses environs où les activités économiques et scolaire reste perturbé, ajoute des sources sur place. Restons en Nord Kivu. Dans la ville de Beni, des voix s'élèvent pour dénoncer la présence des filles mineures dont l'âge varie entre 13 et 16 ans dans des camps militaires qui longent la route de l'aéroport national de Mavivi. Certains parents des quartiers Nzuma, Matembo et Mavivi s'inquiètent de cette situation et disent craindre que leurs enfants n'aient perdent leur année scolaire. Du côté de l'armée, son porte-parole indique que les responsabilités sont partagées. Des détails avec Marc Marofimbo.
Certains parents rencontrés au quartier Nzuma à Beni affirment qu'ils sont préoccupés par cette situation. Ils déclarent que leurs enfants de moins de 18 ans passent des nuits dans les camps militaires situés le long de la route de l'aéroport national de Mavivi. Témoignage.
Ma fille passe nuit là-bas, dans ces camps, même celle de mon voisin ici derrière. Elle passe des fois la journée et dorme dans ces camps. Ce sont des enfants de 15 ans, elles n'ont même pas encore atteint 18 ans. Ça me fait très mal, comme son père. La mienne a d'ailleurs abandonné l'école à cause de ses militaires.
Contactés, les porte-parole de l'armée indiquent que la hiérarchie n'est pas au courant de cette situation. Mais en cas de plainte officielle, la hiérarchie militaire dirigera immédiatement une enquête et les coupables seront punis. Le colonel Makazukai.
Officiellement, la hiérarchie de l'armée à Beni n'est pas encore saisie de cette situation. Nos épouses, nos copines majeures d'ailleurs, sont interdites de fréquenter les positions militaires. Et vous savez que l'impunité aujourd'hui, dans l'armée est avéré. S'il y a des cas comme ça, les gens seront punis.
Sur place, les autorités locales indiquent que cette situation s'observe depuis 3 mois. Elles demandent aux autorités militaires d'agir pour mettre fin à cette pratique qui met en péril la vie de leurs enfants. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, Seth Kikuni a comparu hier soir devant le parquet près la cour d'appel de Kinshasa. L'ex-candidat à la présidentielle de 2018 et président du parti politique Piste pour l'émergence a été auditionné en présence de ses avocats. D'après son chargé de communication, il est reproché à Seth Kikuni plusieurs actes contre l'autorité de l'État congolais. Joint par Radio Kapi, Gabriel Moussafiri parle d'un acharnement contre leur président. Propos recueillis par Étienne Lissoumbou.
Président Seth Kikuni a été transféré hier dans la soirée au parquet près la cour d'appel de Kinshasa Gombe où il a été auditionné en présence de ses avocats. Et les griefs qui sont retenus contre lui, il s'agit notamment de la propagation de faux bruits et puis de l'incitation à la désobéissance civile. Après l'audition, il a été, n'est-ce pas, retourné à l'ANR où il est tout en étant à la disposition du parquet. Donc voilà, nous au niveau du parti Piste pour l'émergence, nous qualifions cela d'un acharnement contre notre président Seth Kikuni parce que sa détention, vu les griefs qu'ils ont retenus contre lui, normalement il ne devrait pas être enlevé et puis passer 10 jours à l'ANR. En tout cas, nous exigeons sa libération immédiate et sans condition, parce que là, il s'agit vraiment de l'acharnement. On lui reproche d'avoir tenu des propos d'incitation à la désobéissance lorsqu'il était à Lubumbashi.
Rappelons que Seth Kikuni a été appréhendé et détenu arbitrairement, selon les dires de ses proches, depuis lundi 2 septembre par des agents de l'Agence nationale de renseignement ANER. Son arrestation était intervenue quelques heures après que Seth Kikuni avait posté un tweet dans lequel il réfutait la thèse de la tentative d'évasion meurtrière survenue dans la nuit du 1er au 2 septembre dernier à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Parlons justement de cette tragédie de la prison de Makala. Elle continue à défrayer la chronique. Les femmes de Lubumbashi, issues de plusieurs structures, réclament que justice soit faite en faveur des femmes détenues qui étaient victimes de viols massifs lors de cette tentative d'évasion. À en croire les autorités congolaises, entre-temps, une collecte de fonds en faveur de ces victimes est lancée à l'initiative de la vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Jean Gandou nous en parle.
Ces femmes de la société civile, auxquelles se sont joints quelques hommes qualifiés de genrés, se sont donné rendez-vous au siège de l'Assemblée provinciale pour faire leur déclaration. Et ce par ces cris qu'ils ont manifesté leur colère.
Violence faite à la femme et à la jeune fille.
Tolérance zéro! Zéro! Zéro!
Dans leur déclaration, lue par la députée provinciale Joël Moukassa, ils dénoncent les cas des viols enregistrés à la prison de Makala.
Venant exprimer notre amertume pour des actes ignobles dont le viol perpétré sur 195 femmes à la prison des Makala et l'une d'entre elles a succombé parce que violée par 10 bourreaux. Aujourd'hui encore, nous ressentons ces douleurs car nous avons à l'esprit le viol commis sur celle de la prison de Kasapa il y a quelques années dans les mêmes circonstances. Nous demandons que la justice soit faite et que les auteurs de ce crime soient punis avec toute célérité.
Pour ces femmes, les victimes doivent bénéficier aussi de l'encadrement psychosocial et mises dans des conditions où pareille situation ne se répète. Pour la circonstance, une collecte en faveur de victimes a été organisée et elle va se poursuivre jusqu'au jour où une délégation quittera la ville de Lubumbashi à destination de Kinshasa où elle rencontrera le ministre du genre afin de lui remettre leur mémo. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, l'évêque du diocèse catholique de Butembo-Beni demande aux élus du Nord Kivu d'être des vrais ambassadeurs de la population auprès des instances de prise des décisions. Monseigneur Sikou Lipaluku Melchisedek l'a dit jeudi à Butembo au cours d'un échange avec le caucus des sénateurs originaires du Nord Kivu. Ces derniers étaient en vacances parlementaires dans la région de Beni-Butembo. L'évêque de Butembo-Beni revient ici sur son message dans cette déclaration à la presse locale, propos recueillis par Guylaine Kassassia.
Partant de toute la situation que nous vivons dans le Nord Kivu, que dans leurs différents parlements, ils puissent être les porte-parole de la situation réelle, de nos misères et de nos attentes surtout, que c'est la première fois que je le vois tous ensemble. Notre force se trouve dans cette cohésion, même s'ils proviennent de plusieurs regroupements ou partis politiques, ça serait bon qu'ils aillent avec un unique cahier de charges, en s'occupant surtout des problèmes de la sécurité et le développement, parce que le développement, c'est aujourd'hui le nouveau nom de la paix. On a des routes qui ont commencé, on voit que ça s'arrête. Est-ce qu'on peut savoir les causes? Il y a des protocoles qui ont été signés entre les pays voisins, par exemple nous. On a l'impression qu'il n'y a pas de réciprocité. Où se trouve le blocage? Qu'ils travaillent à l'unisson, tels qu'ils ont fait le tour de la province, qu'ils ne soient pas là comme des gens qui amènent des rapports, mais comme des médiateurs. Donc quelqu'un qui souffre de la même situation et qui parle, non pas comme quelqu'un qui a attendu parler de ça, qui ne déçoivent pas ceux qui les ont élus.
Autre nouvelle, les agents et cadres de la Radio-Télévision nationale congolaise, RTNC, ici à Kinshasa, ont émis un préavis de grève pour demander au gouvernement de respecter le barème salarial et l'ajout de 25% de salaire, tel que convenu de commun accord avec la délégation syndicale depuis 2021. Si ces engagements ne sont pas pris en compte, ce préavis laissera place à l'arrêt total des programmes, affirme René Kalunda, président de la délégation syndicale de la RTNC. Déclaration faite hier au sortir de l'audience avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, propos recueillis par Tati Mapoukou.
Il y a beaucoup de problèmes à la RTNC concernant les agents, mais nous avons commencé d'abord pour ces débits avec des problèmes majeurs, notamment celui du barème salarial signé par notre ministre des tutelles depuis 2021. Jusqu'à ce jour, malgré que la RTNC, la délégation syndicale, bien sûr, accompagne toujours l'employeur pour présenter, défendre ses budgets au niveau de la conférence budgétaire depuis 2022, 2023 et même cette année en 2024, malheureusement, le ministre du budget résiste toujours pour signer ce nouveau barème salarial. Et le deuxième problème, c'était celui de 25% du barème salarial. On nous paye déjà 75%. Les 25%, le gouvernement avait choisi de payer ça sous forme d'une prime qu'ils ont appelée prime de motivation pour les personnels. Malheureusement, aujourd'hui, nous totalisons 15 mois d'arriérés de cette partie du salaire. Regardez les conditions dans lesquelles travaillent nos agents pour faire fonctionner cette télévision 24h/24 dans les conditions très difficiles. On a lancé une série d'activités qui pourraient terminer par l'arrêt total des diffusions et des transmissions des programmes.
Actualité internationale. L'Allemagne et le Kenya viennent de signer un accord décisif qui permettra à 250 000 travailleurs kenyans qualifiés et semi-qualifiés de s'installer en Allemagne. Ce partenariat stratégique vise à pallier la pénurie croissante de main-d'œuvre en Allemagne tout en offrant des nouvelles opportunités aux jeunes kenyans. La signature de cet accord qui a eu lieu à la chancellerie de Berlin représente une avancée majeure dans les relations entre les deux nations. Ce contrat marque une étape clé dans la résolution des défis du marché du travail en Allemagne, qui peine à recruter du personnel qualifié malgré une population vieillissante.
L'invité.
L'Association des professeurs de l'Université des sciences de l'information et de la communication APUSIC exprime son indignation face au revirement du comité de gestion de l'UNISIC. Dans un communiqué publié lundi dernier, cette organisation syndicale appelle la ministre de tutelle à s'impliquer pour rappeler au comité de gestion Kambayi son obligation de respecter les dispositions réglementaires en vigueur. Pour en parler, nous recevons Adélar Obulokwes, chef des travaux et secrétaire de la délégation syndicale de l'UNISIC. Il s'entretient avec Blaise Shindani Kambala.
Bonjour, monsieur Obulokwes.
Bonjour.
Que reprochez-vous exactement à l'actuel comité de gestion?
La délégation syndicale de l'UNISIC reproche à l'actuel comité de gestion une gestion frélatée de tous les domaines de l'UNISIC, le domaine académique, le domaine administratif, le domaine financier et la gouvernance en général est mauvaise. Et cette gestion mauvaise s'est cristallisée autour de 3-4 faits importants. D'abord, le recrutement cette année, en quelques 2 mois, de plus de 100 assistants et assistants de recherche ou des cours sans respecter aucune norme. Également, le recrutement des gens au troisième cycle pour la formation doctorale qui s'est fait en dehors de normes sans compter d'autres revendications du personnel, notamment le pléthore qui existe, notamment les cours qui ne se déroulent pas de manière qu'il faut, notamment la propreté même, notamment l'équipement qui ne suit pas, en fait, pour nous, tous les compartiments de la vie de l'institution UNISIC sont aujourd'hui au rouge et nous reprochons cela au comité de gestion qui, depuis 2 ans, n'a fait que détruire, ramener cette institution à son plus bas niveau.
Voilà, dans un communiqué publié le 5 septembre, le recteur Kambayi Bwacha indique qu'il a convoqué une réunion de concertation et d'harmonisation entre les comités de gestion et la délégation syndicale. Et vous avez décliné l'invitation. Qu'est-ce qui a motivé votre décision?
Nous avions écrit à monsieur le recteur pour lui dire que dans la situation des crises que nous avons, le communiqué n'est pas la voie qui convient. Ce n'est pas le bon outil parce que le communiqué, il est directif. Nous faisons la communication. Dans la situation des crises que nous avons, il faut une invitation qui mette le partenaire ensemble, qui nous invite à une réunion telle que cela nous a été recommandé depuis le 9 août par la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Au lieu de ça, il envoie un communiqué. Nous lui avons dit que nous n'allons pas venir à cette réunion si ce n'est pas une invitation formelle. Et cette invitation était assortie de quelques préalables. Parmi les préalables, que ça doit être une réunion entre le comité de gestion et la délégation syndicale. On ne veut pas qu'il y ait autour des parasites, des personnes qui viendront pour influencer. Non. Nous leur avons dit que cette réunion devait se terminer, par exemple, par un communiqué conjoint qui doit être signé le même jour à la fin de la réunion, reprenant le point de convergence et le point de divergence entre les deux délégations qui allaient se réunir. Au lieu de répondre à ces préalables, M. le recteur a estimé que le fait que nous ayons posé les préalables était un refus. Alors qu'il sait très bien que nous avons écrit à plusieurs reprises pour envoyer les revendications du personnel, M. le recteur n'a jamais daigné répondre à aucune de ces lettres, ni à aucune de ces revendications. Il ne l'a jamais fait. S'il en a, qu'il vous appelle, qu'il vous donne la preuve. Mais nous avons la preuve, nous, d'avoir écrit. Et donc, pour nous, nous estimions qu'après avoir fait tout cela, il n'y avait plus de confiance envers lui, nous devions poser des préalables. Il n'a pas accompli les préalables et il a conclu que c'était un refus, alors que quand nous allions vers lui, il ne nous répondait pas, il faisait la sourde oreille. Voilà pourquoi nous disons que pour nous, le processus continue, nous continuons à être pris au dialogue. S'il remplit les préalables qui lui ont été posés, il n'y a aucun souci, nous allons avoir la rencontre qu'il souhaite qu'on puisse avoir. Tant qu'il n'y aura pas la réponse à ces préalables, pourquoi vous voulez qu'on puisse dialoguer avec quelqu'un qui refuse de pouvoir accepter de répondre aux revendications du personnel pour lequel il a été engagé et qu'il a désavoué depuis le 6 août.
Alors dites-nous, monsieur le secrétaire, quelle solution envisagez-vous pour sortir l'UNICIC de cette crise?
La solution à envisager, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, parce que dans les autres universités, lorsqu'il y a eu des problèmes, les comités de gestion ont été débarqués. La solution, c'est celle que demande le personnel, c'est que le comité de gestion actuel soit mis de côté afin qu'on dote cette institution d'enseignement supérieur de grande renommée, cinquantenaire aujourd'hui, qu'on dote cette institution d'un comité de gestion à la mesure, à la taille de ce que nous représentons en termes du personnel académique. Nous avons beaucoup de professeurs en termes des étudiants, de qualité que nous avons. Voilà, qu'on nous dote d'un comité de gestion qui soit en mesure de relever les défis, de développer cette institution. Le comité de gestion qui est là, l'a ramené à au moins 15-20 ans plus loin parce que la gestion n'est pas bonne, justement.
Obou Lokwes, secrétaire de la délégation syndicale du personnel de l'UNICIC, merci beaucoup.
Je vous en remercie, moi aussi.
Notre invité répondait aux questions de Blaise Shindani Kambala. Par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.